allons écouter pour finir, en guise de dessert, la crème de la crème, c'est-à-dire Patrick Rébollard. Patrick Rébollard, que je vous présente, qui est professeur à l'université Nanzan, donc à Nagoya, qui enseigne le français, la culture française et qui dirige un séminaire de cinéma dans cette université. Patrick Rébollard participe depuis 1990 à l'équipe de recherche Hubert de Falaise de Paris 3, que vous connaissez sans doute. Cette équipe de recherche qui est spécialisée dans les études littéraires assistées par ordinateur. Et aujourd'hui, Patrick se consacre aussi à l'étude des mazarinades par la création et l'exploitation d'un volumineux corpus qui se trouve en ligne, donc, auquel vous pouvez accéder sur Internet. Il est l'auteur d'articles sur Claude Simon, sur Victor Hugo ou sur Prosper Mérimée, et il a également publié en 2002 un ouvrage intitulé « Les salons littéraires sont dans l'Internet », qui, si je me souviens bien, a été publié au PUF, c'est ça. Et depuis 4 ans, il s'intéresse tout particulièrement à l'œuvre d'Antoine Volodine. Il a participé notamment au colloque de Cerisy consacré à Volodine récemment, l'année dernière. Patrick a choisi de parler de deux auteurs, Claude Simon et Antoine Volodine, donc, qui sera le seul écrivain vivant évoqué. Enfin, nous en avons évoqué ce matin, mais dans le programme, c'est le seul vivant. Et donc, je remercie particulièrement Patrick pour cette attention à la littérature contemporaine, vivante. C'est à toi.
Merci, Michael. Il avait été question de Jean d'Ormesson hier. Encore vivant.
Pardon, il est éternel, c'est pas pareil.
Voilà, vous avez une double feuille d'exemples à l'entrée que je ne lirai pas tous, compte tenu de la quantité et du peu de temps qui nous reste. Le trésor de la langue française définit simplement le mot sédition. Que le titre, c'est « Forme littéraire et politique de la sédition » chez Claude Simon et Antoine Volodine, comme, je cite, « un soulèvement concerté contre l'autorité établie », avec les synonymes « agitation »,« émeute »,« insurrection »,« rébellion » ou « résistance », qui présentent pourtant de grandes différences de sens entre eux. Selon le Grand Larousse, je cite, « c'est un crime contre la sûreté de l'État ». Ce crime, dans la plupart des cas, est commis par un groupe. Mais il peut également l'être par un seul individu. Le général de Gaulle, appelant les Français à le rejoindre en Angleterre en juin 1940, en est un exemple bien connu. En effet, l'étymologie de « sédition » est, en latin, « sed », marquant la séparation, et « itum » du verbe « aller », c'est-à-dire, en quelque sorte, « aller à part », se séparer des autres. Quand Robespierre dit en 1792 que, je cite, « le mot de liberté passe presque pour un cri de sédition », citation, il faut aussi comprendre que ce cri est ou peut être celui d'un seul homme. Et souvent, c'est un écrivain qui peut, à moindre frais, attenter à la sûreté de l'État. Il est bien connu que les écrits jugés séditieux, de Sade, Auguste Blanqui, Louise Michel, Victor Hugo, Jules Vallès et beaucoup d'autres, les ont menés en prison ou en exil. Et même sans être écrivain, quelques mots d'un simple citoyen peuvent être séditieux, comme le montre l'écrivain allemand Hans Falada. Vous avez quelques exemples, quelques extraits de son roman. Dans son roman intitulé « Seul dans Berlin », publié en 1947, son intrigue commence en 1940, après la victoire allemande de la campagne de France, quand le personnage Otto Quangel, un petit contremaître de menuiserie de Berlin, qui a perdu son fils au front, décide d'écrire des cartes anti-nazis. Je cite sa femme qui commente. Quelque chose de dérisoire, d'insignifiant, des cartes postales avec des appels contre le Führer et le parti, contre la guerre, pour éclairer ses semblables, c'est tout. Et ces cartes, il voulait simplement les déposer dans les escaliers des immeubles où il y avait beaucoup d'allées et venues, les abandonner là, sans savoir aucunement qui les ramasserait. Un peu plus loin, que ce soit vain ou non, Anna, dit-il à son épouse, s'il nous attrape, ça nous coûtera la tête. Et Anna commente, il avait peut-être raison, que ce fût peu ou beaucoup, personne ne pouvait faire plus que risquer sa vie. Chacun selon ses forces et ses aptitudes. Le principal était de résister. De ces cartes, il en écrira plusieurs centaines. Je crois que le roman n'est pas traduit en japonais, donc s'il y a des amateurs, en tout cas il est disponible en français dans l'édition Folio. Cette résistance à l'échelle individuelle, fort peu goûtée par le parti au pouvoir, se développait aussi en France, comme le montre par exemple doublement Le silence de la mer de Vercors, nouvelle, petit roman, dans laquelle un père et sa fille français refusent jour après jour de parler à l'officier allemand pour qui une partie de leur maison a été réquisitionnée. Fût-il poli ou mélomane ? Cette nouvelle, dont le contenu montre une forme dérisoire de sédition, est elle-même un acte séditieux majeur, puisqu'elle n'a pu être publiée que sous forme anonyme, Vercors, qui n'est pas le nom véritable de l'auteur, par une maison d'édition fantôme qui venait alors de naître, qui naissait par cette publication, les éditions de Minuit, et diffusée sous le manteau, dans certaines librairies de Paris, voire dans les rues, à l'instar de certaines mazarinades, trois siècles plus tôt. Mais venons-en aux deux auteurs que j'ai choisi de suivre. Pourquoi prendre Claude Simon et Antoine Volodine pour parler de sédition, vu qu'ils n'ont été ni censurés, ni emprisonnés, ni exécutés pour leurs œuvres ? Et quel rapport y a-t-il entre ces deux-là, pris parmi des dizaines d'auteurs contemporains ? Sans écarter l'arbitraire d'un choix personnel, je dirais qu'ils ont tous deux traité des guerres et de l'histoire du XXe siècle d'un point de vue à la fois détaillé, humain et universalisant, qu'ils ont inextricablement mêlé témoignages, fiction et réalité, en luttant contre le conformisme littéraire, mais sans être militant d'un parti, ni affilier aucun de leurs livres à un courant ou à une cause politique. Tous deux ont aussi publié aux éditions de Minuit. En revanche, Simon a toujours prétendu ne pas avoir d'imagination pour inventer des intrigues romanesques, alors qu'Antoine Volodine en déborde visiblement. Claude Simon, né en 1913, a perdu son père à la Première Guerre mondiale et a lui-même combattu et été fait prisonnier à la Seconde. Après deux premiers romans où il s'essayait à des confrontations politiques de personnages, il se dégage définitivement, pourrait-on dire, de tout embrigadement et de tout militantisme, comme on peut le constater dans La Corde raide, roman ou plutôt monologue désinvolte de 1947. Par exemple, lorsqu'il dénonce l'hypocrisie des hommes à propos de la guerre, je cite, « S'ils ont de bonnes raisons pour faire semblant d'émettre ou d'approuver les arguments humanitaires, ils en ont sans doute de meilleurs encore pour n'en tenir aucun compte. » Dans les œuvres qui suivront, de l'herbe au jardin des plantes, en passant par Histoire, les Géorgiques, ou la très célèbre Route des Flandres, la dimension politique sera plutôt dans ses recherches formelles et stylistiques que dans les propos de ses personnages ou dans leurs aventures, contrairement à Sartre, auquel il s'opposera sur ce point et sur quelques autres. les situations les plus insurrectionnelles dans l'œuvre de Simon se trouvent assurément dans le palace, avec les anarchistes et les communistes de Barcelone durant la guerre d'Espagne, et dans les géorgiques, avec encore un peu de Barcelone et beaucoup de révolutions françaises et d'empires. Pour autant, comme j'ai essayé de le montrer dans une précédente communication en 2008, la politique n'est pas un élément important de l'intrigue. Les personnages n'en débattent pas pour prendre des décisions ou faire apparaître une solution bonne ou mauvaise, comme cela se passe par exemple dans Les Chemins de la Liberté, dont on parlait tout à l'heure. Et dans la plupart des romans dits politiques ou historiques. Je disais en conclusion en 2008 que les constructions littéraires proposées par Claude Simon après La Route des Flandres ont déplacé le discours politique du plan lexical vers le plan de la structure textuelle, sorte d'action politique sans les mots du politique. Et c'est bien cela, je reprends aujourd'hui, qui me paraît être une forme de sédition littéraire. J'évoquerai tout à l'heure le cas du livre intitulé « Histoire » après une rapide revue de quelques citations, car les livres de Claude Simon ne sont pas exempts de propos sur l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec dans W ou le souvenir d'enfance. Donc Claude Simon avec une vision de l'histoire qui, si elle devait être enseignée dans les écoles, pourrait paraître dangereuse. Dans la citation 1, qui est donc tirée de l'accord de Rennes, il y a des parties soulignées qui sont les plus importantes, dans mon propos, bien sûr. Le narrateur, qui a miraculeusement échappé à un mitraillage allemand, ce qui semble en effet être le cas de Claude Simon lui-même, se compare à Fabrice Del Longo, personnage de Stendhal, qui dans la Chartreuse de Parme se trouve pris dans la bataille de Waterloo, on en a déjà parlé, sans y rien comprendre. Alors que Stendhal veut montrer l'absurdité de la guerre, Claude Simon insiste sur la nature mensongère des rapports et des relations qui en sont faits. Celle des autres, le « on » de sa phrase et des livres d'histoire, comme sa propre version, elle-même, qui devient un moteur d'écriture dans plusieurs de ses livres, qu'il reprend donc plusieurs fois, et jusqu'à la fin de sa vie. Les citations 2, 3 et 4 permettent de mieux comprendre ce que Claude Simon reproche aux livres d'histoire. Je vais regarder un peu en détail. L'histoire n'est pas, comme voudraient le faire croire les manuels scolaires, une série discontinue de dates, de traités et de batailles spectaculaires et cliquetantes. Si endurer l'histoire, pas s'y résigner, l'endurer, c'est l'affaire, alors la terne existence d'une vieille dame, c'est l'histoire elle-même, la matière même de l'histoire. Dans l'herbe, et puis les autres citations dans la route des Flandres, l'histoire, scintillante et exaltante vision traditionnellement réservée aux cœurs simples et aux esprits forts, bonne conscience du dénonciateur et du philosophe, l'inusable fable ou farce, grâce à quoi le bourreau se sent une vocation de sœur de charité, et le supplicié, la joyeuse, gamine et boy-scoutesque allégresse des premiers chrétiens. Une débauche larmoyante, que l'on pourrait appeler le vacuum cleaner, ou plutôt le tout à l'égout de l'intelligence. Ou encore après, cette loi qui veut que l'histoire, etc., ne laisse derrière elle qu'un résidu, abusivement confisqué, désinfecté et enfin comestible à l'usage des manuels scolaires agréés et des familles à pédigré. Donc, comme pour cette vieille dame de l'herbe en 1958, être une fable qui donne bonne conscience aux dénonciateurs, aux philosophes, comme aux familles à pédigré, c'est-à-dire à une bonne partie de ceux qui constituent l'élite de la société. Une fable qui est aussi une farce dans la parole sarcastique des prisonniers de la route des Flandres en 1960, dont la vie et l'histoire ont été confisquées, qui sont déjà presque des Untermensch, des sous-hommes, donc comme les appellera communément Volodymyr. La citation 5 est célèbre, à juste titre. Elle oppose un père resté dans ses terres et qui s'indigne, dans sa lettre, qui s'indigne en humaniste de la destruction de la précieuse bibliothèque de Leipzig à son fils, lettre à son fils, prisonnier de guerre, qui, dans un stalag, donc, ne voit pas l'utilité d'une institution qui n'a pas pu empêcher la guerre. Comme il s'agit, semble-t-il, du bombardement allié du 3 décembre 1943, les prisonniers ont froid et, dans sa réponse, le fils dit qu'ils ont plutôt besoin de chaussettes, caleçons, lainages, que de tous les livres contenus dans cette bibliothèque. Cette dialectique romanesque oppose également la vision d'un plus tard, d'où le conflit mondial sera vu en termes de perte d'un héritage culturel, opposé à un ici et au difficile maintenant de la survie des prisonniers. Le fait que ni le père ni le fils ne relèvent qu'il s'agit d'un bombardement allié, pouvant donc mener à la libération des prisonniers, est un non-dit qui incombe à Claude Simon lui-même et à son refus de faire le jeu du patriotisme. Les Géorgiques, paru en 1981, est un roman où s'entrelacent trois époques principales. Celle de Virgile, 1er siècle avant Jésus-Christ, à qui le roman emprunte son titre, les Géorgiques. Celle du conventionnel Jean-Pierre Lacombe-Saint-Michel, ancêtre de Claude Simon et qui a voté la mort de Louis XVI et deviendra général d'Empire. Enfin, celle de George Orwell en Espagne et de Claude Simon durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire contemporaine. Au sujet de l'histoire, les citations 6, 7 et 8 montrent que le sarcasme et la colère des années 1950-1960 chez Claude Simon donc, ont fait place à une distanciation quelque peu fataliste, avec une forme pragmatique d'alternance absurde de temps et de guerre et de paix, qui aurait pour synonyme le destin, c'est la citation numéro 6, il semblait maintenant un fait acquis que l'histoire dut être divisée non en siècles, mais en courte période, une vingtaine d'années, le temps pour des couturiers au faste babylonien de fourrer les femmes dans des tuyaux de lamée, leur farder les yeux de verre, suspendre dans leur salon des tableaux cubistes, puis faire vendre le tout aux enchères avant saisie arrêt, après quoi l'état de choses normales, la guerre, pouvait reprendre et les vieux généraux mis en conserve, etc. etc. Donc une alternance absurde de temps de guerre et de paix, et qui aurait pour synonyme le destin, ou à la manière de Lucrèce, c'est la citation 8, la logique de la matière. Au-delà de ces brèves considérations sur l'histoire, ce sont, à l'échelle de tout le roman, qui est volumineux, les relations intratextuelles et intertextuelles entre les périodes, les narrateurs et les auteurs, qui constituent le véritable travail de Claude Simon sur l'histoire. Plutôt que de voir des périodes dans leur linéarité chronologique, ou même dans leur rapport analogique, il articule les événements et les personnages de ces périodes jusqu'à les faire entrer en résonance et produire chez le lecteur une impression de polyphonie historique véritablement nouvelle. Dans ses dernières œuvres, comme L'Acacia ou Le Jardin des Plantes, Claude Simon se désintéresse tout à fait de l'histoire en tant que science ou discipline. Donc il parle beaucoup d'histoire, de faits historiques, mais plus en tant que science ou discipline. Il la voit, dans la citation 9, comme une vieille ogresse à l'estomac insensible qui dévore les hommes les uns après les autres, un peu comme Cronos avec ses enfants. Une telle distanciation, même dans sa version mythique ou mythologique, nous ramène à une conception de l'histoire qui n'a peut-être jamais changé chez Claude Simon, celle qu'il empruntait à Pasternak en exergue de L'Herbe, je cite Pasternak, « Personne ne fait l'histoire, on ne la voit pas, pas plus qu'on ne voit l'herbe pousser », qui est une citation de du docteur Gilago, et qu'il développait plus tolstoïennement dans le palace, je cite brièvement, « L'histoire se constituait au moyen d'une série de mutations internes, de déplacements moléculaires. » Mais comment la fiction fait histoire ? Je parle ici du roman de Simon de 1967. Pour y répondre sommairement, ainsi qu'à la question « Comment histoire, le roman, fait la fiction ?», j'évoquerai le point stratégique de l'intrigue. La découverte d'une grande quantité de cartes postales dans un tiroir. Rien à voir avec celle de Hans Falada dont je parlais en introduction. Il s'agit des cartes envoyées à la mère du narrateur par son père, bien avant sa naissance, militaire, le père donc, qui était presque toujours en mission en divers points du monde, donc faisant partie de l'histoire coloniale. La description de ces cartes retrouvées, une par une, par le détail de l'image et l'entrelac avec les quelques mots qui sont écrits sur l'image ou au dos de la carte, permet, au fil des pages, de construire une histoire familiale, mais aussi une histoire mondiale, de façon fragmentaire bien sûr, certes donc très parcellaire, mais fortement émouvante pour le narrateur, comme pour le lecteur, est donc susceptible de montrer au lecteur une nouvelle conception de l'histoire en la mettant en pratique de cette façon et qui soit autre que celle des livres d'école et des académies. Je passe à la troisième partie consacrée donc à Antoine Volodine, entre guillemets. La personne qui a créé les écrivains nommés Antoine Volodine, Lutz Bassmann, Manuela Dreger, Elie Kronauer et bien d'autres. Cette personne est née en 1949. Cette personne dont on ne sait presque rien a sans doute participé à la mouvance gauchiste des années 68-75 dans son parcours d'études et de vie adolescente et de jeune homme avant de devenir enseignant de russe pendant une quinzaine d'années. Son premier livre, paru en 1985, l'année du prix Nobel de Claude Simon, son œuvre aujourd'hui dite post-exotique, compte presque 40 volumes. Alors que Simon n'avait de cesse de reconstituer des événements vécus ou de revisiter des faits historiques, la littérature post-exotique propose généralement des lieux et des temps irréels, oniriques ou surréalistes, la référence à ce domaine littéraire étant attestée à de nombreuses occasions. Et quand un roman de Volodine se passe dans des lieux connus, comme Lisbonne, dans Lisbonne Dernière Marge, ou Macao, dans Le Port Intérieur, l'ambiance et l'intrigue les rendent tout aussi extraordinaires que les steppes de la Mongolie après la Révolution mondiale, dans « Des anges mineurs », ou les monastères du Tibet après la mort, dans « Bardo or not Bardo ». Ce dépaysement, comme on dit aussi d'un procès, n'empêche pas que l'on reconnaisse les pires situations humaines du XXe siècle. Guerre, révolution et contre-révolution, génocide, torture, terrorisme, camps d'extermination, bombardements atomiques, sans parti pris, ni révisionnisme, ni procès, en fait. Le post-exotisme absorbe toute l'horreur humaine et nous la restitue comme si elle était celle d'un autre monde. Et seule une sorte de sédition déjà en nous permet que nous acceptions cela. Cette sédition est peut-être un cocktail d'humour noir et de mauvaise conscience, comme on peut le constater dans la citation 1, donc de la partie d'Antoine Volodine, qui est empruntée à la biographie comparée de Jorian Murgra, qui est donc le premier livre publié en 85. Il est question donc d'écrire l'histoire sur les pages blanches de l'histoire avec le sang du peuple. un moment destiné à figurer par la suite sur les feuillets des livres et des manuels. Et donc, quelqu'un se prépare à faire un assaut, qui est une sorte de monstre, et pour se préparer à cet assaut, il veut être à la hauteur de l'histoire, entre guillemets. Cette histoire qui, à la quatrième ligne, il fallait y mettre la grondante solennité que sauraient ensuite chanter les poètes prolétariens, etc. Donc, comme on peut le constater dans la citation 1, quand le rebelle qui s'apprête à l'assaut veut que ce soit un moment épique, digne des pages de l'histoire, qui sont écrites avec le sang du peuple et chantées par des poètes prolétariens. Ou inversement, dans le roman intitulé « Le nom des singes », dont l'incipit est, je cite, qui n'est pas dans la liste, « La révolution était morte une fois de plus et même très morte. J'avais honte d'avoir participé à ce ratage. » Fin de citation. L'humour peut même grincer jusqu'au malaise, comme dans le roman de Lutz Bassmann de l'année dernière, intitulé « Les aigles puent », car il concerne un monde dans lequel, lorsqu'un nouveau-né est ausculté, je cite, « En cas de non-appartenance flagrante à la race dominante, l'euthanasie était automatique et immédiate. » Dans une interview en 1997, Antoine Volodine déclarait, je cite, « L'écriture, quel que soit le sujet du livre, devient une posture militante, un geste de combat contre le monde ennemi. » Fin de citation. Il ne s'agit donc pas d'un militantisme de parti, ni d'un combat exigeant de la violence. Il s'agit de littérature. Et même lorsqu'il s'agit de littérature pour enfants, comme c'est le cas avec les publications d'Eli Kronauer et de Manuela Dreger dans la collection Medium de l'École des loisirs, il y a une dimension de conscience politique et de contestation propre à éduquer les adolescents. Les 5 volumes de récits russes d'Eli Kronauer ont un avertissement, tous le même, pas tout à fait, mais qui finit par ce paragraphe, façon Adorno, je cite, « La mémoire d'Eli Kronauer est la même qu'il y a un siècle, mais Auschwitz, Hiroshima, Tchernobyl ont eu lieu et ont laissé sur notre monde des marques indélébiles. C'est pourquoi on ne peut plus croire de la même manière aux valeurs et aux choses du monde, ni les dire de la même manière. » Fin de citation. Ou, dans un des récits pour enfants de Manuela Dreger, intitulé « Au nord des gloutons », le passage suivant, je cite, « Autrefois, la police avait une réponse pour toutes les questions, mais maintenant, les gens se sont rendus compte qu'ils n'en ont pas tellement besoin de réponse à leurs questions, ni de la police. Des gens ont organisé une collecte pour que la ville s'en rachète une de police, mais finalement, on a utilisé l'argent pour autre chose. On a changé les rideaux de l'école à la place. » Fin de citation. Et il y en aura autant pour les adultes. Lisbonne Dernière Marge, sorte de roman terroriste qui met en scène un membre imaginaire de la fraction armée rouge, Rote Armée Fraction, est une œuvre complexe, avec un roman dans le roman, qui commence néanmoins par une touche d'humour à la portugaise. Lire le début de la citation 2, ça c'était pour moi-même, donc je lis le début de la citation 2. Rue de l'Arsenal, à Lisbonne, les potences abondent. Les quoi ? Demanda-t-il, s'étonna-t-il. Qu'est-ce que tu as dit ? Les potences, confirma-t-elle, avec un mouvement provoquant de l'épaule. Et j'ai toujours voulu faire démarrer ainsi mon roman, par une phrase qui les gifle, eux, les esclaves gras de l'Europe, et les esclaves boudinés, et les cravatés, et les patrons militarisés par l'Amérique, et les serfs du patronat, et tous ces pauvres types asservis par tous, et les sociaux traîtres, et leurs dogues, et toi aussi, mon dogue, toi aussi, qui, un peu plus loin, donc, qui gifle la couenne du cochon occidental, siffla-t-elle en ricanant. « Ne me dis pas, revint-il à la charge, que tu vas tout faire échouer en écrivant un bouquin truffé de renseignements, etc. etc. » Elle est une terroriste, il est un policier, son amant, qui essaye de la faire échapper à la poursuite d'autres policiers. Les potences font penser au lecteur, comme à Kurt, qu'Ingrid parle de pendaison d'êtres humains, alors qu'en fait, comme on le voit dans la citation 3, elle parlait effectivement de pendaison d'êtres humains, mais par analogie malsaine, en désignant des morues séchées suspendues à l'entrée des épiceries. L'aspect grosse blague de potache dans l'intrigue n'empêche pas que le roman de Volodine commence effectivement par cette phrase qui gifle le lecteur qui, s'il est honnête, pourra s'assimiler lui-même au cochon occidental dont parle Ingrid. Extrémisme, sectarisme et élimination au sein du groupe terroriste vous feront sans doute souvenir du triste chemin qui va du Gakusei-Undo au Nihon Sekigun. Il s'agit donc du mouvement étudiant au Japon et le Nihon Sekigun, l'armée rouge japonaise et son actif tristement terroriste. Le dictateur, mis en scène dans le roman Alto Solo, le seul traduit jusqu'à maintenant en japonais, nous rappelle inévitablement Hitler. Plutôt que d'insister sur cette analogie facile, j'attire votre attention, c'est la citation 4, sur la méthode surréaliste d'un personnage écrivain, dans les parties soulignées, dont les absurdes fantasmagories passent par le souterrain des mirages pour déboucher sur la place principale de la capitale. Fin de citation. Ce qui peut être vu comme une mise en abîme transcendantale, selon Lucien d'Alenbach, que vous connaissez tous sans doute, nous livrant un élément important de l'art poétique de Volodine, art parabolique, dans lequel se retrouve la sédition mineure-majeure dont il était question tout à l'heure avec le silence de la mer. Parfois, sous l'humour ou sans humour, quand toutes les révolutions ont raté et que toutes les causes sont perdues, certains textes font apparaître un absolu désespoir en l'être humain, sentiment qui a tendance à franchir la clôture diégétique chez les lecteurs connivants et à être pris pour une prophétie apocalyptique. Dans les citations 5 et 6, tirées de Songes de Mevlido, l'histoire se déroule sur Terre quand la Lune occupe, je cite, « la moitié du ciel ». C'est-à-dire, je cite maintenant la citation 5, « maintenant que le pire de l'histoire barbare humaine ou sous-humaine avait été atteint et même dépassé ». Fin de citation, et qui est logiquement le, je cite, « début d'une agonie prolongée de l'espèce ». Fin de citation, de sorte que les organes, qui sont les autorités supérieures de l'univers dans ce roman, Dieu si on veut, envisagent un rapprochement avec les araignées pour redémarrer la vie sur Terre. Donc l'espèce humaine telle que nous l'incarnons serait terminée, et Dieu irait voir du côté des araignées s'il n'y a pas moyen de refaire une société avec des gens qui se diraient eux aussi êtres humains, hein, comme c'est le cas dans une fiction radiophonique qui n'a pas encore été publiée de Volodine, dont on pourra reparler si vous voulez, mais on n'a pas le temps. D'autres espèces animales sont envisagées par le post-exotisme pour prendre la relève des humains ou pour en être la métaphore. Outre les araignées, il y a souvent des oiseaux, des éléphants, des monstres ou des poissons. L'exercice de style que constitue la chaga des sept reines sirènes, citation suivante, au sein du recueil intitulé « Nos animaux préférés », que je vous recommande pour commencer en post-exotisme, si vous devez faire un choix. Cet exercice donc mêle la parodie de fables animalières et la parodie de son commentaire. Double exercice de subversion des genres, selon le linguiste Dominique Magno, mais sans véritable dévalorisation, comme le suppose parfois le mot parodie, sans dévalorisation des contenus, bien au contraire, comme vous le verrez dans les situations 7, 8, 9. Je vais en lire un bout au moins de la 7. « plus d'un analyste s'interroge sur les tenants du pouvoir de Diodone V, dont on connaît surtout les aboutissants, qui culminent avec sa brusque descente du trône et sa dispersion en villes morceaux. Il est vrai que les mémoires retiennent l'insurrection plutôt que ce qui la prépare. De la totalité du règne, seul le dépeçage de la reine fut chroniqué dans le détail. Diodone V fut hameçonné aux branchies, et bien que pour sa défense elle donnât du relief à ses piques, les gredins qui l'encerclaient plongèrent des lames dans sa vessie gazeuse et fort bientôt lancèrent des bribes de celle-ci sur l'assistance, en signe de populaire victoire. Clameurs et proclamations égalitaristes suivirent. Chacune des reines dont les analystes font la chronique hagiographique est un poisson femelle rapidement mis à mort par des terroristes, des insurgés ou des soldats. Quand l'histoire n'est plus qu'un chaos, je cite, ou un carnaval, la fuite de l'idée d'humanité vers d'autres espèces est inévitable. La fuite vers le végétal est aussi une possibilité qui s'offre aux terroristes emprisonnés à vie, pour supporter leurs conditions, éviter de devenir fous, voire pour continuer à résister. La chaga de la voix et des herbes constitue à mes yeux la plus haute branche atteinte par la sédition poétique de Volodine, même si son commentaire, comme vous le voyez dans la citation 11, tente de lui préserver, comme par modestie, son caractère de performance et d'exercice ludique. Je vous lis un extrait de la citation 11. En réalité, la chaga de la voix et des herbes a résonné dans les couloirs de notre quartier de haute sécurité depuis la fin des années 80, on ne sait pas de quel siècle, et on peut même dire qu'elle a été depuis toujours exceptionnellement populaire et vivante parmi nous, dans le contexte sombre de notre incarcération, et alors que beaucoup d'entre nous, par suite des mauvais traitements et de la solitude, perdaient peu à peu la mémoire et la raison, etc., etc. Il se peut que ce soit aussi, pour moi, une pratique plus thérapeutique que littéraire. À défaut de lecture herméneutique, essayons la lecture homéopathique d'un extrait dans la citation 12, extrait donc de la chaga de la voix et des herbes. Il s'agit de récits, de d'énumérations. Chacune de ces énumérations est dite par un des personnages fictifs, évidemment. La courmaine, la larme de bœuf, la conte-misère, la petite harpie, la myrmine diaprée, la coventaine, la rondière, la dame des chemins, la marigotte ou fausse myris, l'ombilieuse, etc., etc. Tous ces noms sont inventés ou détournés d'autres noms d'herbes. Conclusion goudronneuse. Quand la grande hache s'est abattue, quand la cause historique est perdue, quand toutes les causes sont perdues et que la sédition collective n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de collectif, il se peut qu'il reste encore à celui qui résiste son amour propre et sa conviction, qui lui sont comme un noyau de dignité humaine, une sédition intime que l'oppression ne peut casser qu'en le tuant, et même pas, selon Volodine. Et quand son témoignage a été refusé par les historiens, il lui reste la fiction pour essayer de faire connaître l'histoire des vaincus et son histoire en tant que vaincu éternel. L'auteur-narrateur de Claude Simon, épris de la dérisoire et improbable vérité des instants de lutte, reste englué dans le XXe siècle. Mais l'œuvre de Simon survit, se transmet, et elle est de celles qui ont permis l'apparition d'un Volodine et l'éclosion du post-exotisme. De même, les multiples héros ou zéros écrivains du post-exotisme, oiseaux, araignées, sous-hommes, morts en cours de réincarnation ou déjà retournés au goudron, peuvent chacun regarder l'avenir historique et se dire avec fierté et désespoir, avec la fierté du désespoir, à l'instar de Victor Hugo, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Merci de votre attention.
beaucoup, Patrick Rébollard, pour cette conclusion goudronneuse, pour cette évocation très stimulante de deux écrivains évidemment importants, on le sait pour Claude Simon depuis très longtemps, mais Antoine Volodine, évidemment, comme tu l'as bien montré aujourd'hui, il n'a pas fini de susciter des commentaires. Il aurait peut-être fallu préciser que Manuela Dreger, Lutz Bassmann et Antoine Volodine, pour les gens qui n'ont pas lu Volodine, sont la même personne, je ne sais pas. Mais
oui, en fait, j'ai dit au début la personne qui a créé les écrivains nommés, etc. Mmh. etc. On n'a peut-être pas mémorisé tout ça.
Non, mais Volodine est un tourbillon, un labyrinthe tournoyant qui m'a encore donné, je crois, beaucoup de grains à moudre aux chercheurs dans les années qui viennent. Et merci, merci encore. Et le choix des citations est tout à fait extraordinaire. On voit là deux langues très différentes, mais deux utilisations de la langue française, que pour ma part, je trouve époustouflantes.